18h. Et à 18h, c'est l'heure du journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Forte mobilisation en Catalogne pour les élections régionales, un scrutin qui divise littéralement la population entre indépendantistes et unionistes. Les premiers résultats tomberont dans la soirée. Dans un instant, nous serons avec nos envoyés spéciaux en Catalogne, Annabelle Grolier et Sébastien Berriot. Une nouvelle fois, l'ONU s'apprête à clouer au pilori les États-Unis, cette fois pour la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. L'Assemblée générale des Nations unies discute en ce moment d'une résolution visant à condamner Washington. Nous retrouvons Marco Voltaire à New York. En France, le gouvernement veut accueillir 100 millions de touristes en 2020 et cela passe par un nouveau portail internet France.fr. Les explications à venir d'Hakim Kasmi. La grève aujourd'hui aux hôpitaux de l'assistance publique à Marseille. Les grévistes redoutent près d'un millier de suppressions d'emplois. Ce serait la contrepartie pour toucher un chèque de 100 millions d'euros pour la modernisation de l'établissement. Le dossier de ce journal consacré ce soir à la UFA, société de production mythique du cinéma allemand. La UFA qui fait l'objet d'une exposition en ce moment à Berlin, un dossier préparé par Cyril Sauvageau. Depuis 9h ce matin, les Catalans votent pour renouveler leur parlement régional avec l'espoir d'apaiser les tensions nées de la déclaration unilatérale d'indépendance annulée par Madrid. L'enjeu du scrutin est connu. Les indépendantistes vont-ils conserver leur majorité face aux partisans de l'Espagne? Aucune tendance claire ne se dégage dans les derniers sondages. Nous retrouvons notre envoyée spéciale à Barcelone, Annabelle Grolier. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Annabelle, en attendant les résultats, on peut déjà dire que la participation est massive.
Le taux de participation doit être massif, c'est ce que disent en tous les cas tous les médias espagnols depuis plusieurs jours. Il devrait même atteindre un niveau record au-delà des 80%. Au dernier pointage, à la mi-journée, la participation s'élevait à un peu plus de 34%, ce qui est en fait légèrement moins à la même heure qu'au précédent scrutin. Un élément de comparaison toutefois relatif, parce que ces élections, qui ne sont pas à une originalité près, se déroulent un jour de semaine et non un dimanche, donc les gens travaillent et sans doute les habitudes sont différentes. En tout cas, c'est indéniable, les files d'attente s'étirent devant les bureaux de vote, et ce depuis les premières heures d'ouverture ce matin, et pour le moment, aucun incident n'est à déplorer, précise en tout cas ce soir les autorités espagnoles.
Alors rappelons aussi Annabelle que quel que soit le vainqueur ce soir, il faudra constituer une coalition pour gouverner la Catalogne.
Oui, ils sont 7 partis à se disputer les suffrages, 3 formations indépendantistes, 3 formations unionistes et un parti, Podemos, le seul qui ait pris une position intermédiaire ou ambiguë, c'est comme on veut. C'est-à-dire qu'il est favorable à l'unité constitutionnelle de l'Espagne, mais pour un référendum catalan autorisé par Madrid. Alors la question sera de savoir de quel côté penchera Podemos quand sera venu le temps des tractations pour former une coalition gouvernementale. Dans le bloc unioniste, Ciudadanos est donné largement favori, mais les sondages donnent l'avantage au camp indépendantiste. En tous les cas, aucun ne pourra se passer d'alliance pour avoir le pouvoir en Catalogne.
Annabelle Grolier en direct de Barcelone, merci. Alors on sait que plusieurs leaders indépendantistes sont en prison. Quant au président déchu de la Catalogne, Carles Puigdemont, il suit le scrutin depuis son exil bruxellois. A-t-il ou va-t-il voter par correspondance? Pour le savoir, nous nous rendons à San Julià de Ramis, banlieue de Gérone, le fief électoral de Carles Puigdemont. Sébastien Berriot est sur place.
60% de votants, c'était le taux de participation ici à 17h dans l'unique bureau de vote du petit village de San Julià de Ramis. Une participation à peu près équivalente à celle des élections de 2015. Dans ce fief indépendantiste, beaucoup d'électeurs nous expliquent qu'ils sont venus pour montrer à l'Espagne et au monde que le processus de séparation avec Madrid n'est pas terminé, n'est pas mort. On s'attend donc ici à de bons scores pour les deux principaux partis qui sont en faveur de l'indépendance, la gauche républicaine, l'ERC, et surtout Junts per Catalunya, la formation de Carles Puigdemont, le président en exil et le grand absent de cette journée à San Julià de Ramis. J'ai pu constater sur le registre de vote que le nom de Carles Puigdemont était bien inscrit, mais pas de mention de vote. Les procurations n'existent pas en Espagne. Seul le vote par correspondance est possible, mais Carles Puigdemont n'a pas souhaité retenir cette option. Ce matin, sa femme est venue voter. La venue de l'ancien président était envisagée dans le bureau, mais pour le moment, il ne s'est pas présenté. Un dispositif de sécurité est mis en place, mais il est très limité.
Sébastien Berriot de France Bleu, Roussillon. Les bureaux de vote ferment à 20h ce soir en Catalogne. Les premiers résultats tomberont dans la soirée. Nous y reviendrons bien sûr à 22h dans le journal de Clément Lacaton. L'ONU s'apprête à infliger un nouveau camouflet diplomatique à Donald Trump. L'Assemblée générale des Nations unies doit se prononcer sur une résolution condamnant la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. La réunion a débuté il y a 2 heures à New York. New York où nous retrouvons Marco Voltaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Marco, la position américaine sur Jérusalem est ultra minoritaire, mais Trump a brandi la menace de rétorsion financière contre certains pays alliés de Washington qui voteraient la résolution. Quelle était la tonalité des premières interventions tout à l'heure à l'ONU ?
Eh bien, sans surprise, on a assisté pour le moment à des discours très offensifs. Une trentaine de pays ont demandé à prendre la parole avant le vote. La séance a évidemment débuté par les interventions des principaux concernés. Pour le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, Nouri al-Maliki, la décision américaine, la décision de Donald Trump est une agression à l'encontre du droit du peuple palestinien. Ceux qui veulent la paix doivent voter pour la paix aujourd'hui, a-t-il dit. Dans la foulée, le représentant israélien a lui fustigé l'ONU. Cette réunion est une honte et cette résolution finira, je cite, dans les poubelles de l'histoire. Côté américain, la représentante Nikki Haley a une nouvelle fois insisté sur la souveraineté des États-Unis. Il s'agit de notre ambassade. Et vous le savez, elle avait fait circuler une lettre pour rappeler que Washington allait noter, surveiller ceux qui voteront pour la résolution et de répéter tout à l'heure que les États-Unis se souviendront de ce jour. On s'en souviendra quand il faudra verser notre contribution à l'ONU. On s'en souviendra quand certains pays viendront solliciter notre aide. Une menace donc renouvelée de couper des financements. C'est une intimidation, un comportement inacceptable, a dit le chef de la diplomatie turque qui est, avec le Yémen, vous le savez, dépositaire de ce texte.
Marco Voltaire en direct de New York, merci. Comment qualifier ce qui s'est passé ce matin à Melbourne? Une voiture a foncé sur une foule de piétons dans un quartier commerçant de la deuxième ville d'Australie. Le dernier bilan fait état de 19 blessés, dont 4 sont dans un état grave. Officiellement, la piste djihadiste est écartée. On fait le point avec Caroline Lafargue.
Une attaque imprévisible et imparable. Le conducteur du 4x4 a foncé à grande vitesse dans les piétons qui traversaient une artère très fréquentée du centre de Melbourne. À cette heure-ci, les Australiens sortaient du travail et se ruaient dans les magasins pour préparer Noël. À ce stade, la police australienne écarte fermement la piste d'un acte terroriste. Celui qui a lancé sa voiture contre la foule a été identifié. Il s'agit d'un Australien de 32 ans, d'origine afghane, selon la police, et déjà arrêté pour des agressions par le passé. Un homme déséquilibré, consommateur de drogue et en proie à des troubles mentaux. Un deuxième homme de 24 ans a été arrêté parmi les passants. Il filmait la scène, la police l'a fouillé et trouvé des couteaux dans son sac. Mais selon le commissaire Shane Patton, il est probable qu'il n'ait pas participé à l'attaque.
Caroline Lafargue, correspondante à Melbourne. L'actualité française et le gouvernement qui se fixe un objectif ambitieux en matière de tourisme, accueillir 100 millions de visiteurs en France en 2020. Cette année, la fréquentation touristique française devrait approcher les 90 millions. Chiffre énorme qui fait déjà de notre pays l'un des plus visités au monde. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Alors pour atteindre les 100 millions de visiteurs, le gouvernement a dévoilé aujourd'hui une nouvelle version du site France.fr.
Oui, le portail France.fr n'est pas un site marchand qui proposera des prestations hôtelières ou des visites touristiques. C'est un outil numérique pour promouvoir les identités régionales et culturelles de notre pays. Alimenté par des journalistes ou des artistes, il fonctionnera un peu comme un média. Pour attirer le plus grand nombre d'étrangers, il sera disponible dans 29 pays différents comme la Chine, le Danemark ou encore la Suède ou l'Australie, avec à chaque fois une déclinaison locale qui tiendra compte des habitudes et des codes culturels. Christian Mantaï, directeur général d'Atout France, c'est l'agence de l'État en charge de la promotion touristique.
Le site portail doit révéler des identités qui sont très très fortes, des identités régionales, de sites, une France des artistes, des talents, essentiellement une France culturelle au sens large d'ailleurs. Et dans culture, j'intègre aussi l'art de vivre, les savoir-faire, l'artisanat d'art, le geste, tous ceux qui, au cœur des territoires, portent des traditions, mais des traditions revisitées.
Mais les retombées devraient être aussi économiques, car si l'objectif de 12 millions de touristes supplémentaires est atteint d'ici 2020, cela devrait créer des centaines de milliers d'emplois, selon Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge du tourisme au ministère des Affaires étrangères.
Si nous arrivons à la fois générer plus de venues touristiques et plus de dépenses touristiques, notre but c'est d'augmenter de 10 milliards d'euros les dépenses touristiques faites sur le territoire national aussi d'ici 2020, en principe on pourrait avoir 300 000 emplois supplémentaires, donc c'est pas rien.
Un pari ambitieux qui dépendra aussi de la situation géopolitique et sécuritaire, car en cas d'attentat, ce que l'on n'espère pas, cela pourrait faire baisser les chiffres. Le tourisme représente en France 8% de notre PIB.
Hakim Kasmi, merci pour ces explications. Les hôpitaux de l'assistance publique à Marseille sont touchés aujourd'hui par un mouvement de grève. Les personnels sont inquiets face au projet de la direction de l'APHM. 800 à 1000 suppressions de postes seraient envisagées. En contrepartie, les hôpitaux toucheraient un chèque de 100 millions d'euros pour leur modernisation. Un marché contesté par les grévistes et une délégation a été reçue en préfecture par un membre du cabinet du ministère de la Santé. Marie-Christine Loriol est à Marseille.
L'assistance publique des hôpitaux de Marseille, 3e CHU de France, présentera le 31 janvier prochain son plan de modernisation. Le projet vise à rattraper des années de défaut d'entretien des bâtiments pour que les malades soient accueillis dans des locaux décents et que le personnel retrouve des conditions de travail normales. Mais pas en diminuant les moyens humains, explique Carole, aide-soignante à l'hôpital Nord.
Pour faire de bons soins, il nous faut impérativement du personnel, des moyens. Il manque du monde, des arrêts maladie, le travail s'accumule, il faut faire les tâches. On passe vite fait, il faut les écouter nos malades, ça fait partie du soin, il faut être là.
D'autant qu'une réduction des effectifs a déjà été entreprise. Pour Audrey Jolibois, secrétaire générale FO de l'APHM, les personnels ont fait suffisamment d'efforts.
On a un plan de retour à l'équilibre financier qui est à hauteur quand même de 51 millions d'euros. On est quasiment jusqu'en 2020 à plus de 400 suppressions de postes par des non-remplacements de départ à la retraite. Là aujourd'hui, on nous annonce 1000. Il va y avoir un problème sur la santé des Marseillais.
Et de s'interroger sur l'indemnité de résidence que l'État omet de verser à Marseille, soit 8 millions d'euros, alors qu'il le fait pour Paris et Lyon.
Marie-Christine Loriol. Le groupe Lactalis est ce soir dans la tourmente. Le géant de l'agroalimentaire annonce un nouveau retrait massif de lait infantile. 720 lots retirés du marché. Le problème vient de l'une des principales usines du groupe, celle de Cran en Mayenne. Une première contamination aux salmonelles avait entraîné le retrait de 625 lots de lait infantile. Les explications d'Aurélien Accard.
Cette fois, c'est l'ensemble de la production de cette usine de Cran depuis février dernier qui est rappelée par Lactalis. Pour faire simple, en France, on parle là de quasiment tous les laits 1er, 2e et 3e âge de la marque Picot, toutes les boîtes de lait Milumel et les miels, et aussi d'un certain nombre de références de céréales infantiles. Lactalis ne communique aucun chiffre, mais ça représente plusieurs milliers de tonnes de lait en poudre. Le groupe invoque un principe de précaution désormais maximal pour justifier ce retrait total. Il fait suite à de nouvelles analyses menées dans l'usine depuis son arrêt complet le 8 décembre dernier. Après avoir rappelé dans un premier temps 12 lots qui, eux, étaient contaminés de façon certaine, Lactalis avait été contraint d'allonger sa liste une première fois par la DGCCRF, la répression des fraudes. Cette fois, le groupe prend les devants. Il parle désormais d'une contamination dispersée qui s'est installée dans toute l'usine après des travaux menés au début de l'année. Lactalis acquit cette affaire pourrait coûter très cher. Plusieurs parents et l'UFC Que Choisir ont d'ores et déjà porté plainte pour tromperie.
Aurélien Accard, merci. 23 nourrissons ont été atteints de salmonellose. Certains ont dû être hospitalisés, mais sont depuis ressortis. Tous les enfants vont bien. Notez qu'un numéro vert a été mis en place par Lactalis, le 0800 120. 120. Cette affaire Lactalis qui intervient au moment où s'achèvent les états généraux de l'alimentation. Le discours de clôture doit être prononcé par le Premier ministre Édouard Philippe tout à l'heure. Pour résoudre la crise agricole, le gouvernement va imposer aux distributeurs un seuil de revente à perte de 10% sur les denrées alimentaires. Autrement dit, les distributeurs seront obligés de revendre tout produit alimentaire au prix où ils l'ont acheté, majoré de 10% au minimum. Alors évidemment, les associations de consommateurs craignent une hausse des prix. Mais ce n'est pas vrai. En tout cas, c'est ce qu'affirme Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution.
Aujourd'hui, on a le droit de revendre un produit uniquement au prix d'achat, majoré des frais de transport. C'est-à-dire qu'on considère que la distribution n'a aucun coût. La réalité, c'est que naturellement, il y a des coûts de la distribution, des coûts de logistique, des coûts dans les magasins. Et donc, le système actuel permet en réalité de vendre à perte, puisqu'on ne prend pas en compte les coûts en question. Et donc, il s'agit là de changer ce système qui aboutit à ce que certains prix aujourd'hui soient trop bas et d'autres, par contre, sont trop élevés.
Mais est-ce que vous vous engagez à répercuter justement les bénéfices supplémentaires sur les producteurs ?
L'objectif est très clair, il s'agit de faire en sorte que les agriculteurs vivent mieux de leur métier, mais également que l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, qui aujourd'hui en France est en difficulté, se porte mieux. Il faut bien voir que c'est une des mesures d'un ensemble annoncé par le président de la République, qui consiste également à faire en sorte d'encadrer les promotions pour redonner un prix juste, et surtout à désormais avoir une négociation qui partent des coûts moyens des producteurs. C'est ça qui va changer complètement les choses. Et dans les plans filières qui vont être détaillés dans quelques minutes, puisque je suis aux états généraux de l'alimentation, on va bien voir que la segmentation, c'est-à-dire la montée en gamme, la montée en qualité des produits, elle va se traduire par une valorisation supplémentaire, par des prix plus élevés. C'est ce que veulent les consommateurs aujourd'hui, parce qu'ils sont prêts à acheter plus de qualité en payant plus cher. C'est une chance pour tout le monde. Et donc, il ne faut surtout pas avoir peur de tout ça. Les associations de consommateurs vivent un peu dans des raisonnements du passé. Aujourd'hui, on a à construire un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, il est sur de la qualité, il est sur de l'exigence environnementale.
Mais vous dites que c'est une chance pour tout le monde. Et en même temps, il a fallu en passer par une loi. Donc, il a fallu contraindre, finalement.
Sur ce sujet, malheureusement, le système juridique nous interdit de le faire, puisque si toutes les enseignes font la même chose en même temps, ça s'appelle une entente. Et donc, c'est prohibé par la loi. Donc, la seule solution sur ces sujets-là, sur les promotions comme sur le seuil de revente à perte, c'est d'en passer par la loi, c'est une exigence juridique.
Voilà, Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution qui représente les grandes enseignes, il répondait à Céline Asselou. Notre dossier nous emmène ce soir à Berlin pour une exposition consacrée au 100e anniversaire de la UFA, la Universum Film AG et la plus célèbre société de production cinématographique allemande. On lui doit quelques chefs-d'œuvre du cinéma d'avant-guerre comme Metropolis ou L'Ange Bleu. La compagnie est devenue ensuite un instrument de propagande au service du régime nazi. UFA, l'histoire d'une marque, c'est le nom de l'exposition à la Cinémathèque de Berlin et c'est un reportage de Cyril Sauvageau.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu de Sternberg, c'est l'une des œuvres les plus célèbres du cinéma allemand, une production majeure de la UFA. Nous sommes en 1930, l'Allemagne domine le cinéma européen et donnera bientôt à Hollywood certaines de ses plus grandes stars. Ce film qui a lancé la carrière internationale de Marlène Dietrich occupe une place de choix dans l'exposition Vera Thomas de la Cinémathèque de Berlin.
Vous voyez ici une pièce majeure de la collection, je l'aime beaucoup. C'est une robe de chambre de style kimono conçue pour Marlène Dietrich alias Lola Lola dans L'Ange Bleu. Pour être tout à fait précis, elle ne le porte pas dans le film, mais on le voit suspendu derrière elle dans une penderie. Nos restaurateurs ont réussi à identifier le vêtement et comme nous possédons la collection Dietrich à la Cinémathèque, nous avons pu l'exposer.
Dans les studios de Babelsberg aux portes de Berlin, la UFA a déjà donné naissance dans les années 20 à plusieurs chefs-d'œuvre de Fritz Lang comme Metropolis. Mais cette époque dorée touche à sa fin avec l'arrivée des nazis au pouvoir. Beaucoup d'artistes fuient l'Allemagne et la reprise en main idéologique ne tarde pas.
C'est écrit noir sur blanc dans ces documents d'époque. La UFA n'a plus le droit d'employer de personnel juif. On voit aussi comment l'idéologie nazie prend le contrôle sur les scénarios, les sujets abordés. Mais c'est un processus qui se fait peu à peu. Et quand on regarde l'ensemble de la production, on se rend compte qu'il y a moins de films de propagande qu'on pourrait le croire. Bien sûr, certains sont restés célèbres comme Kohlberg ou encore Morgenroth. Des films où en effet le message politique est très explicite.
À la fin de la guerre, la UFA est logiquement démantelée par les Alliés. Elle renaîtra en partie aux mains du régime communiste de RDA avant de connaître une résurrection inattendue lorsque le nom UFA est racheté par le puissant éditeur Bertelsmann qui relance peu à peu la production jusqu'à nos jours.
La UFA d'aujourd'hui n'est pas la même entreprise, c'est important de le préciser. Il ne reste que le nom d'origine. Actuellement, elle continue à produire des films pour le cinéma, mais aussi des séries pour la télévision, avec souvent un tropisme pour l'histoire de l'Allemagne. Je pense notamment à la série Deutschland 83. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une histoire unique de la UFA. Pas du tout.
Une histoire faite de ruptures, de cicatrices et de reconstructions. C'est en quelque sorte un siècle d'histoire allemande qui défile dans cette exposition.
Voilà pour ce reportage de Cyril Sauvageau, notre correspondant en Allemagne. L'exposition Oufa, histoire d'une marque, est à voir jusqu'au 18 avril à la Cinémathèque de Berlin. Le temps demain sera gris et surtout humide, sauf dans le sud-est et sur les Alpes, où qui devrait bénéficier du soleil. Les températures sont en hausse, les maximales plafonneront entre 7 et 12 degrés d'est en ouest, près de la Méditerranée. Il faudra compter de 13 à 15 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.